Nous lisons cette parole de David à ce moment-là, mais c'est une expression qu'on trouve 14 fois dans les deux livres des rois. Et là, nous lisons. Et le roi jura et dit : L'Éternel, qui m'a délivré de toutes les détresses, est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant : Salomon, ton fils, régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. L'Éternel, qui m'a délivré de toutes les détresses, est vivant. L'Éternel est vivant, c'est donc une expression qu'on trouve 14 fois, vous nous dites, dans ces deux livres des rois, et qui est utilisée habituellement dans des circonstances extrêmement solennelles, avant de prendre une décision importante. Et si nous avions le temps, nous pourrions étudier les différentes occasions dans lesquelles cette expression est utilisée. Citons-les simplement pour l'instant. Nous verrions ainsi qu'elle est utilisée dans des décisions qui impliquent des coupures, dirais-je. Oui, des décisions, il a fallu couper dans les situations. Et là, dans celle que nous lisons là, au début du livre des rois, c'est David qui tranche pour la royauté en faveur de son fils Salomon. Et en défaveur d'Adonijah et de son parti, parce qu'il y avait de la concurrence. Et puis Salomon lui-même, au chapitre suivant, va être obligé de prendre des mesures aussi envers certains grands du royaume. Envers Adonijah, justement, Joab, qui va être condamné à mort dans ce cas. Abiathar, qui va être le souverain sacrificateur, qui va être envoyé en exil. Et Shimei, qui va être placé en résidence surveillée. Voilà, des décisions importantes. Le prophète Élie aussi. Lorsqu'il est obligé de demander la sécheresse sur un peuple désobéissant du temps d'Akab, c'est dans 1 roi 17, là aussi, il annonce l'Éternel est vivant. Il n'y aura ces années de pluie, pas de pluie, sinon à ma parole. Et oui, c'est comme cela. Nous pourrions aussi voir que 3 fois des hommes l'ont prononcé dans des décisions où ils savaient risquer leur vie. Élie, donc, se présentant plus tard devant Akab, alors que la sécheresse est au plus fort, que le roi est dans une grande exaspération, une grande colère contre lui. C'est 1 roi 18, chapitre 18. Michée aussi, prophète Michée, plus tard, donc, qui lui décidera aussi d'annoncer un message sans compromis, alors que tous l'invitent à agir autrement devant Akab, hein, encore Akab. Donc c'est chapitre 22, et là aussi il manifeste sa décision de ne pas se laisser impressionner ni d'entrer dans des compromissions mauvaises. Et puis Élisée le prophète, décidant de dire à Joram, fils d'Akab, ces 4 vérités au risque de sa vie. C'est dans le deuxième livre des rois, cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 14. Et nous pourrions encore voir qu'il y a 3 occasions où des hommes ont prononcé cette formule-là pour affirmer de profondes décisions spirituelles qu'ils avaient prises eux-mêmes. Ainsi, Élisée, décidant de suivre Élie jusqu'au bout, quels que soient les obstacles qu'il puisse y avoir. Et nous le voyons, dans 2 Rois, donc chapitre 2, 3 fois, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. On voit cela. Donc, et pourtant, on voit qu'il y avait des obstacles, parce qu'Élie lui-même, apparemment, y objecte. En plus, le trajet de la journée est extrêmement long et il est un peu sans queue ni tête. C'est quand on examine ça sur une carte, on a vraiment l'impression que Élie se paye la tête d'Élisée. C'est pas le cas, bien sûr, mais... Et puis les fils des prophètes aussi, qui avaient des dons spirituels, qui veulent également le dissuader. Là aussi, on voit cela. Et puis Élie lui disant à la fin lorsqu'il dit « je voudrais une double part », c'est-à-dire c'est la part de l'aîné en fait, double part de l'esprit qui est sur toi, donc tu lui demandes une chose difficile, qu'il lui dit en plus encore. Et pourtant, eh bien, nous voyons que Élisée va obtenir, et il va obtenir pourquoi ? Eh bien parce que justement il avait pris cette décision à suivre et jusqu'au bout, une décision spirituelle forte. La tsunamite qui décide de ne pas laisser aller Élisée jusqu'à ce qu'il soit venu pour prier pour son fils. Et ça manifeste le combat pour l'obtention d'un miracle. Hein, c'est plus qu'une guérison, c'est une résurrection dans ce cas. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 4 du deuxième livre des Rois, au verset 30. Et puis vous avez aussi, encore une fois, Élisée qui refuse absolument de retirer un intérêt matériel lorsqu'il y a eu un miracle. En fait, il s'agit là de la guérison de Naaman le Syrien. Hein, il ne veut absolument pas qu'on lui donne quoi que ce soit en récompense de cela, parce qu'il a reçu gratuitement, donné gratuitement, puis il ne veut pas, là encore, qu'il y ait de mauvaises intentions ou de mauvaises interprétations, plutôt, hein, dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 16. Donc, trois occasions comme cela pour des décisions spirituelles fortes. Et puis, il y a aussi trois occasions où ça a été mal utilisé, mal employé. La veuve de Sarepta, alors qu'elle ne croyait pas encore, qu'elle n'avait pas encore la foi. Elle avait un début de croyance, mais malgré tout, il y avait encore de l'incrédulité dans 1 Rois, chapitre 17, au verset 12. Hein. Donc, elle va utiliser cette formule, mais pas de la bonne façon. Abdias, l'intendant d'Akab, est un croyant, mais en secret. Hein, c'est dans 1 Rois, chapitre 18, qu'on voit cela. Et là encore, il utilise cette expression, mais tout le contexte montre combien il est dans la crainte. Ça peut se comprendre humainement, mais malgré tout. Et puis Géasi, donc, le serviteur de l'homme de Dieu, le serviteur d'Élisée, mêlant les choses de Dieu à son intérêt personnel et au mensonge. Là aussi, hein, l'Éternel est vivant, j'en obtiendrai quelque chose. Ah oui, c'est dans 2 Rois 5, verset 20, et ça finira, hélas, tristement pour lui. Et nous pourrions voir aussi que Salomon a fait trois expériences personnelles particulières qu'il va introduire par cette expression-là, lorsqu'il était encore dans sa bonne période, hein. Dans 1 Rois chapitre 2, verset 24, c'est son affermissement, lorsque Dieu l'a affermi. Et nous devons être affermis par le Seigneur, hein, et chercher à être affermis par le Seigneur. Lorsque Dieu l'a fait asseoir sur le trône de David, et nous aussi, eh bien, nous devons régner dans la vie par Jésus-Christ seul, hein, là aussi. Et puis, Dieu lui a fait une maison selon sa promesse. Et nous avons la promesse aussi d'avoir des enfants spirituels, si évidemment nous agissons de la bonne manière. Et puis, nous pourrions voir aussi, enfin, que cette expression a été utilisée en s'appuyant sur trois promesses précises de la parole de Dieu, et ceci par trois fois. Déjà, en premier, la promesse du secours de Dieu pour ceux qui le servent. Vous trouvez ça deux fois dans la bouche d'Élie, 1 Rois 17 et 18, deux fois dans la bouche d'Élisée, 2 Rois chapitre 3 et chapitre 5, et puis, voilà donc, ensuite, la promesse aussi d'être animé de la même vie que la vie de Dieu, hein, ça aussi, c'est ce qui ressort de l'œuvre, trois fois à propos d'Élie, une fois à propos d'Élisée encore, et puis, nous en revenons à notre texte de départ, qui est intéressant parce que justement, il nous ajoute quelque chose, c'est la promesse de la délivrance de toutes les détresses pour ceux qui le servent. Hein. Donc, je reviens à cette parole de David, que vous avez là dans notre texte de départ, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Et nous voulons nous attacher plus précisément à ce passage-là. Vous savez, les détresses de David, ça n'a pas été rien. Hein. Ce n'était pas des petites détresses. Et il n'y en a pas eu qu'une ou deux. Hein. Il y a vraiment des détresses qui ont été grandes, qui ont été nombreuses, qui ont été périlleuses. Vous pouvez en relever au moins une douzaine qui nous sont citées. Hein, spécialement dans les deux livres de Samuel. Il y a aussi fait référence à l'occasion dans les psaumes. Et encore, tout ne nous est certainement pas dit. Mais en tout cas, à chaque fois, Dieu a su l'en tirer d'une façon admirable. Amen. Et ainsi va-t-il aussi le faire pour nous tirer de toute détresse, pourvu que nous nous confions en lui de tout notre cœur, comme David l'a fait. Alors reprenons un petit peu ces détresses dont David a été tiré. Vous avez eu celle contre le lion et l'ours, rappelez-vous, hein, ça lui est arrivé plus d'une fois cela. Dans 1 Rois 17, verset 34 au verset 36, et nous savons que le lion et l'ours, ça représente aussi le diable, ça représente les puissances démoniaques qui accompagnent l'adversaire. Hein. Donc il n'y a pas de discussion avec un lion, avec un oursin, il n'y a pas de compromis à faire avec eux. Hein. Si on veut la victoire, ben, vous savez, il faut faire face et puis il faut y aller. Hein, vous n'avez, ou alors, il faut se sauver. Mais si vous voulez ne pas devenir sa proie ou ce qui vous a été confié ne devienne pas sa proie, ben, il faut quand même lutter. Et puis, il faut tenir bon Et puis, il faut rester ferme sur les choix qu'on a faits et les décisions qu'on a prises. Hein. Raconte l'histoire de ce jeune cowboy qui avait fréquenté pendant des années le saloon du village, qui était devenu plutôt alcoolique. Et puis, un jour, il s'est tourné vers le Seigneur et s'est converti. Mais quand il venait au village, il continuait à attacher son cheval ou l'attelage à l'abreuvoir du bar. Il continuait à l'attacher là. Et puis voilà qu'un jour un chrétien de l'assemblée du lieu s'est aperçu de cela. Et puis, ils avaient de bons échanges avec ce jeune converti, ce jeune frère dans la foi. Et puis un jour, il lui dit, écoute, mon frère, Georges, j'ai quand même fait quelques expériences dans la foi, puis je pense que tu me pardonneras si je te donne juste un petit conseil. Hein. Et même si tu penses que le Seigneur a fait une grande chose pour toi, même si tu crois que le Seigneur t'a vraiment fortifié, eh bien, suis mon avis et change d'abreuvoir le plus vite possible. Change d'abreuvoir. Vous savez, faut pas jouer avec le péché, pas jouer avec le diable, faut pas se croire plus fort. Vous savez, sans le Seigneur, on n'est rien. Hein, avec le Seigneur, par contre, on est rendu victorieux. Hein. Et David savait cela. Hein. Et quand nous avons ce combat contre le diable, eh bien, agissons ainsi pour un combat sans compromis. Vous avez eu, bien sûr, la grande détresse contre Goliath. Hein. Là aussi, c'était quelque chose. Hein. Et ça, c'est l'image de quoi ? Là, c'est l'image de notre géant. Vous savez, on a tous un géant. Un géant qui est là, qui veut nous nuire. Ce géant ne porte pas forcément le même nom pour tout le monde, mais on a tous dans notre vie un adversaire particulier, bon, il y en a d'autres aussi, mais un adversaire particulier contre lequel il faut qu'on se tienne spécialement en garde et qu'on ne peut pas vaincre par soi-même. Hein. Et peut-être que pendant des années, et peut-être que depuis des années, on s'aperçoit que ce géant est là et qu'on n'a pas réussi à le vaincre. Hein. Et là aussi, eh bien, ce géant qu'on ne peut pas vaincre simplement avec nos propres forces, eh bien, c'est seulement avec, au nom de l'Éternel, comme David, que ça va pouvoir se faire. Hein, et là aussi, eh bien, il y a un miracle que Dieu veut encore accomplir. Et lorsque Saül, le roi, son supérieur, bien sûr, celui auquel il était soumis, était serviteur de Saül pendant tout un temps, mais lorsque Saül a voulu le clouer au mur avec sa lance, en deux occasions, lorsqu'il était saisi d'accès de jalousie et de fureur qui tournait à la folie et qui en tournait à la possession, hein, on le voit plus tard, mais c'est dans 1 Samuel 18 et 19 qu'on le voit. Et là aussi, c'était une grande détresse. Et ça peut représenter, oui, ceux qui peuvent être dans la vie, dans le monde, nos supérieurs. Hein, ils ne sont que peu de choses devant Dieu, mais quand même, hein, on peut se retrouver dans une situation parce que c'est pas facile. Ceux qui ont une autorité sur nous et qui peuvent nous vouloir du mal, qui peuvent vouloir nous être hostiles. Hein. Alors évidemment, il faut qu'on révise aussi nos propres vies pour voir s'il n'y a pas des fois des raisons pour lesquelles il en est ainsi. Hein. Mais je me souviens qu'un jour en pastoral, nous avons un frère donc qui est serviteur de Dieu et qui est pasteur et qui a en même temps un travail dans le monde. Qu'il assure pour justement pour subvenir à ses besoins. Et il est arrivé en pastoral un jour, l'air soucieux, préoccupé, et puis dans les sujets de prière, parce qu'on a toujours un moment de prière où on présente les sujets principaux, particuliers qu'on a, eh bien, il nous a partagé son fardeau. Il avait un supérieur hiérarchique et qui lui était très hostile depuis quelque temps, et spécialement depuis qu'il avait appris qu'il était pasteur. Il lui rendait le travail difficile, faisait tous les ennuis possibles et imaginables. On pouvait vraiment parler de harcèlement moral, de harcèlement psychologique. Et donc, cet homme agissait ainsi. Et puis, ces derniers temps, en plus, ben, il faisait tout ce qu'il pouvait pour remonter son propre supérieur contre lui. Hein, donc, et puis, le but, c'était de toute évidence de le licencier. Et je me souviens que nous avons prié. On a prié ensemble, dans la pastorale, on a lié les puissances d'opposition, les puissances d'hostilité, et le frère est reparti rasséréné. Et quelques jours plus tard, on a appris qu'il y avait eu un vif désaccord qui était survenu entre, justement, ces deux hommes, pour une toute autre question, hein, toute autre occasion, et puis que c'est celui qui lui était hostile qui a été licencié. Non seulement cela, et en plus, L'autre est devenu tout à fait amical avec le frère, et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tout le problème est complètement parti. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a toutes sortes de moyens pour nous délivrer, hein, pour nous secourir, hein, à condition, bien sûr, qu'on se confie en lui et qu'on crie à lui pour implorer son secours. Amen. Et puis, il y a aussi cette détresse, cette série de détresses, c'est une triple détresse au moins, lorsqu'il a été trahi. Parce que David a été trahi en trois occasions, on le voit, hein, deux fois par les habitants, les Ziphiens, on l'appelait comme cela, donc 1 Samuel 23 et 1 Samuel 26, et une fois dans le désert d'En-Gedi, 1 Samuel 24. Et pourtant, les gens de ces régions, ils pensaient pouvoir s'appuyer sur eux, parce qu'ils faisaient partie de sa propre tribu, et ils pensaient pouvoir se reposer en toute sécurité, mais c'était des faux frères. Et ça fait que, ça fait qu'il s'est retrouvé entouré d'ennemis de toutes parts jusqu'à ce que Dieu, miraculeusement, le sauve. Dieu a des moyens pour nous sauver. Je me souviens aussi de ce témoignage, le témoignage d'un serviteur de Dieu qui a expliqué qu'il avait grandi en tant que jeune homme sans avoir jamais entendu parler des choses de Dieu, qu'il ne s'en occupait pas. Et puis, pendant la guerre, à un moment, il s'est retrouvé sur un bateau et ce bateau a été torpillé. Donc, le bateau a commencé à couler. Alors, quand c'est comme ça, vous n'avez pas 50 solutions. Hein. Tout le monde s'est jeté à l'eau. Ceux qui savent nager, tant mieux pour eux. Hein. Les autres essaient de faire ce qu'ils peuvent. Donc, et surtout, il faut s'éloigner pour sauver sa vie et ne pas être entraîné par le remous du bateau qui coule. Hein. Ça aussi, c'est un grand point. Et puis ils étaient là, tout un groupe, et tout à coup, horrifiés, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient une nappe de mazout en flammes sur les vagues qui vient vers eux, poussée par le vent, donc à la surface de l'eau, et impossible d'échapper. Qu'allait-il faire ? Et puis là, dans ce groupe-là, il y avait un chrétien. Et ce chrétien, il a commencé à prier à voix haute, « Oh Dieu, sauve-nous ! Oh Dieu, sauve-nous ! Oh Jésus, sauve-nous !» Vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont tous, même ceux qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais connu le Seigneur, ils ont tous commencé à prier. Oh Dieu, sauve-nous. Tous, la dizaine d'autres qui étaient là, qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu d'amour, ont dit aussi, oh Dieu, sauve-nous. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, la nappe de mazout s'est éloignée. Et même, il y a eu un large chemin qui s'est dessiné, qui s'est tracé, qui s'est opéré devant eux pour y nager en sécurité. Et en plus, ils ont vu un radeau qui était juste devant, qui était juste au bout de ce chemin-là, de sorte qu'ils ont pu ainsi attendre les secours et qu'ils ont pu être recueillis en sécurité. Et celui qui témoignait de cette histoire, il ajoutait, vous savez, personne n'aurait pu persuader ces garçons, tous ces gens qui étaient avec moi, que Dieu n'avait pas répondu à leur prière. Il dit là, tous. Ils étaient assurés, étant donné ce qu'ils avaient vécu, que Dieu les avait secourus. Vous savez, quelle que soit notre détresse, la parole de Dieu nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Encore faut-il crier à lui, de tout notre cœur. Voilà le grand point. Hein, c'est ça la grande chose. Et puis, que dit encore ? Il y a eu cette autre détresse dans 1 Samuel 30, quand ses propres gens ont voulu le tuer à Tsiklag. Rappelez-vous. Là aussi, tous ceux qui l'avaient suivi jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, mais parce qu'il y avait eu une troupe d'Amalécites ennemis qui était venue, qui avait emporté leurs femmes, leurs enfants, tout le bétail, pendant qu'eux-mêmes étaient partis. Eh bien, donc, ils ont voulu se retourner contre David pour le tuer. Et il est marqué, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. » Le seul et vrai appui qui a pu lui rester. Le seul, mais l'unique est le vrai. Le vrai appui. Et combien là aussi, ça a été le moyen, parce qu'après, il a consulté Dieu, et puis Dieu lui a indiqué ce qu'il fallait faire, Dieu l'a encouragé, donc, ils ont pu être tirés d'affaire, là encore, de façon miraculeuse. Encore une détresse, où il aurait dû y rester. Puis lorsqu'il était chez Achish, roi de Gath, Samuel 21, le roi des Philistins, c'était les ennemis, les ennemis déclarés d'Israël. En plus, il y en avait qui se souvenaient très bien de la façon dont David avait combattu contre les Philistins des années auparavant. Et David a bien cru que ce serait fini pour lui. Il a eu très peur. Il était dans un grand péril. Il a compris ça. Hein. Et puis, là encore, Dieu lui a donné une délivrance. Il s'en est fallu de peu, il s'en est fallu d'un cheveu. Mais il s'en est sorti encore par la grâce du Seigneur. Et puis la détresse, lorsqu'Absalom, son fils, s'est révolté contre lui. Rappelez-vous, ça aussi, de Samuel 15, verset 14, il marquait la conjuration devint puissante. Hein, donc, il y a beaucoup de monde qui était contre David. Quelle détresse lorsque notre propre famille est contre nous. D'autant plus qu'ils connaissent bien souvent exactement les points forts et les points faibles qui nous rendent sensibles et vulnérables. Mais là encore, le Seigneur peut nous secourir. Là encore, le Seigneur peut nous délivrer. Vous savez, encore deux autres formes de déception qu'il nous faudra surmonter. La déception venant de personnes avec qui vous travaillez et dont vous dépendez, peut-être familialement, en tout cas c'est le cas, je prends l'image de Moïse, hein, rappelez-vous de la déception de Moïse. Hein. Et c'est vrai que pour arriver, pour réussir, on a besoin parfois du soutien des autres, et lorsque ces personnes vous laissent tomber, ben vous souffrez bien sûr. Bien sûr vous souffrez, rappelez-vous. Dieu, Moïse était parti en quelque sorte en conférence au sommet avec Dieu sur le mont Sinaï, si je peux m'exprimer ainsi. Et au cours de cela, les 10 commandements lui avaient été confiés, les 2 tables de pierre, hein, vous vous souvenez. Et il avait laissé la responsabilité du peuple à son frère Aaron. Et puis, lorsqu'il revient, l'anarchie règne dans le peuple. Et où se trouve Aaron ? Ben, il est en train de se pavaner là, à la tête de la rébellion. Et c'est lorsque Moïse a le plus besoin de lui qu'Aaron a choisi de le laisser tomber. Hein, on voit ça. Mais observez l'attitude de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Vous savez, c'est quand on est dans une situation de déception comme ça qu'on voit la réalité d'un vrai conducteur, d'un vrai serviteur de Dieu. Hein? Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il affronte Aaron. Il demande à Dieu comment résoudre la crise. Il prie celui-ci de pardonner à Israël. On le voit. Hein? Et Dieu l'écoute. Et puis, il lui rappelle le but de sa mission. En quelque sorte, il lui dit, je comprends que tu sois déçu, mais va et conduis le peuple. Mon ange marchera devant toi. Amen. Hein? C'est dans Exode 32, verset 34 que ça nous est dit. La déception, vous savez, ce n'est pas une excuse pour abandonner notre mission. Et ça n'annule pas la présence de Dieu à nos côtés. Amen. Hein? Et puis, oui aussi, pour revenir encore à Moïse, la déception venant de personnes pour lesquelles vous avez beaucoup sacrifié, pour laquelle peut-être même vous avez sacrifié votre vie. Et là, regardons encore une fois du côté de Moïse, et il y a un serviteur de Dieu qui le décrivait ainsi. Moïse, le pasteur fondateur de la première église de gens critiques et ingrats. Une belle congrégation d'anciens esclaves délivrés, bénis au-delà de toute imagination, en route vers la terre promise, mais dépourvus de la moindre fibre de reconnaissance ou de loyauté envers l'homme qui avait tout sacrifié pour les mener au bout de leur périple. Ah oui, c'est vrai. Hein, souvenez-vous, à peine sortis d'Égypte, les voilà qui se sont rebellés contre Moïse en le rendant responsable de leurs difficultés. On va lire avec Exode chapitre 14, mais certainement, Moïse s'est-il senti humilié. Certainement, s'est-il senti blessé. Mais chaque fois qu'il envisageait de renoncer à la tâche, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait rencontrer Dieu. Et il priait pour son troupeau. Et il écoutait les ordres de Dieu. Et il retournait à son travail. Et c'est vrai. C'est vrai aussi que c'est ce à quoi nous sommes chacun, chacune, appelés et sans nous décourager en croyant que le Seigneur a un moyen de puissante délivrance pour nous. Amen. Amen. Et puis vous avez eu encore, j'approche quand même de la fin de la série, quoi qu'il y en ait encore certainement d'autres, mais la détresse lorsque Sheba s'est révolté contre lui. C'est dans 2 Samuel chapitre 20, versets 1 et 2. Non pas que cette révolte ait été un événement particulièrement terrible par son ampleur, mais, vous savez, David avait vu bien des fois des gens qui avaient remis son autorité en question. Hein. Mais cette révolte, elle arrive au moment difficile. Elle arrive en plus d'autres problèmes. Et c'est ça aussi qui la rendait difficilement supportable. Et c'est vrai que là aussi, nous pouvons avoir des moments de détresse lorsque les problèmes s'amassent les uns sur les autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. Mais voilà. Hein, donc, et puis que couronner le tout, voilà qu'encore quelque chose d'inattendu qui vient quelque part faire déborder le vase. Hein? Ben oui, c'est les choses. Hein? Mais là aussi, le Seigneur peut agir. Là aussi, le Seigneur peut nous secourir, nous délivrer. Alléluia. Et c'est sa volonté. Et puis, quand on arrive au moment de la vieillesse, voilà un enfant de Rapha, un géant, a voulu en profiter pour le tuer. David commençait à être âgé. Hein? C'est en 2 Samuel 21, versets 15 à 17. Et, bah oui, vous savez, jusqu'au bout, il y a des combats contre les géants. Hein? Jusqu'au bout, hein? Faut pas qu'on s'imagine que parce qu'on approche du bout du voyage, qu'il faut se relâcher. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Ah non. Non, il faut tenir bon, il faut lutter. Hein? Ah, Mme Yann, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. La réponse, vous l'avez entendue. C'est la réalité. Béni soit l'Éternel est vivant. Lui qui m'a délivré de toutes mes détresses. Quand David dit ça, il sait ce qu'il dit. Hein, il sait ce qu'il dit. Ses paroles, elles ont du poids. Alors, quoi qu'il en soit, plus que jamais aujourd'hui, pour nous aussi, l'Éternel est vivant. Et il est encore plus vivant que ce que David pouvait concevoir. En tout cas, nous pouvons le réaliser parce que nous savons qu'il est ressuscité. Alléluia. Seigneur ressuscité, il est rempli de cette vie de résurrection qui est une vie incommensurable, une vie qui a la puissance sur la mort, une vie qui a la puissance sur toute chose. Et c'est pour cela que nous aussi, nous pouvons nous réjouir en prononçant ces paroles, en sachant qu'il est vivant, pas simplement vivant comme ça, mais vivant en notre faveur. Par lui, ce que lui aussi veut nous délivrer de toutes nos détresses, béni soit son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est toi qui nous invites encore et toujours à nous confier en